Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey pour vous accompagner aujourd'hui en ce 6 janvier pour vous présenter le National. Allez, on y va tout de suite. Hier, dans le cadre des Paractualités, j'ai reçu, oh c'était par téléphone, mais je ne sais pas, il me semble qu'il était tellement près de nous, j'ai reçu Benoît Huot. Allez, on réécoute. Il a vécu toute une année en 2016 et nous sommes très très heureux ici de le réentendre. Benoît Huot, bonjour.
Hey, bonjour, bonne année.
Bonne année Benoît, que d'émotion. Hein?
Ça a été une grande année,
oh!
Non seulement les Jeux paralympiques, certainement peut-être même mes derniers Jeux paralympiques comme athlète. 4 ans, c'est long, hein?
Alors, c'est long, hein?
J'aimerais bien y être encore en 2020, mais je suis conscient qu'à la mi-trentaine, plusieurs choses
ouais.
vont arriver, avec une carrière aussi qui s'échelonne sur près de 15 ans déjà. Ouais. Puis vite conclure 2016 et débuter 2017 avec la nomination à l'Ordre du Canada, ça a été une belle année qui se termine et puis beaucoup d'émotions.
Mais Benoît, de toute façon, vous ne pourrez plus participer parce que maintenant que vous avez croisé l'athlète néerlandais à l'arrière et que vous lui avez dit « t'en fais pas bonhomme, je ne serai plus là dans 4 ans », il serait déçu, hein, s'il fallait que vous reveniez.
Oui, effectivement. Mais l'affaire, c'est que... Il y a plusieurs façons de voir les choses.
Oui.
Soit que je serai plus là dans son champ de vision, dans la course, parce qu'il va être tellement en avance. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison. La relève, ça pousse. Ils sont là pour faire avancer le sport. Et puis, effectivement, je pense que le plus grand défi, si je suis encore athlète, par exemple, en 2020, c'est essayer de rester au sommet de la pyramide et continuer à s'améliorer.
Oui.
Parce que c'est ça qui est difficile, hein, quand on fait un sport et puis qu'on prend de la maturité, on prend de l'expérience, mais le corps, ses limites et le défi du sport.
Mais c'est même, Benoît, la raison pour laquelle cette médaille de bronze que vous avez reçue avait une saveur de médaille d'or. C'est qu'il a fallu que vous travailliez tellement contre les jeunes qui améliorent beaucoup, qui vont plus loin, que pour vous, déjà, recevoir une médaille, c'était peut-être pas inespéré, parce que sinon, vous n'auriez même pas participé, mais c'était fantastique, quoi.
Ah oui, absolument. Je pense que vous l'avez bien saisi. J'ai amélioré mon chronomètre par plus de 2 secondes sur cette distance-là.
C'est incroyable.
À l'âge de 32 ans. C'est presque du jamais vu dans notre sport. Surtout plusieurs années. Et c'est ce qui me rend le plus fier, je crois, par rapport à 2016 et les Jeux de Rio. C'est d'avoir été capable, après toutes ces années, si ce n'est pas les centaines, les milliers de fois que j'ai répété le 200 mètres et le 400 mètres, avoir conclu sur une excellente note, non seulement un podium, mais des meilleurs chronomètres. C'est ce qui est le plus difficile dans notre monde. Puis le parallèle qu'on peut faire, c'est drôle, c'est parce que on connaît tous le grand champion nageur, Michael Phelps, certainement le plus grand Olympien de l'histoire. Mais Phelps s'est présenté à Rio cet été avec 6 médailles. Il a sorti de Rio avec 6 médailles, dont 5 en or. Mais croyez-le ou non, il n'a pas fait un meilleur chronomètre personnel.
C'est j'avais pas drôle. Relevé ça.
Alors, pour dire que notre mouvement, qui est celui du paralympique, continue à évoluer, continue à grandir, et les médailles sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Alors, si on n'a pas une courbe qui s'accélère et qu'on continue à s'améliorer, mais les médailles vont être impossibles à aller chercher. Alors, c'est la beauté de notre mouvement, et puis on est content que ça soit ainsi, parce que ça prouve que notre crédibilité, la notoriété en prend un bon coup.
Si tant est, on comprend même pas qu'il faille encore prouver à quel point c'est nécessaire, quoi, et à quel point c'est du sport. C'est fou, mais on rame encore pas mal. Hein?
oui, effectivement, mais on est dans la bonne direction.
Oui,
je pense que ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le sport.
Oui.
Et c'est jour et nuit versus mes débuts. On s'en va dans la bonne direction. Mais c'est sûr que le rêve ultime, et puis ça, je pense que je le vivrai pas comme athlète, mais j'espère le voir de mon vivant, de voir la médaille d'or paralympique avoir la même valeur aux yeux du grand public, puis pas une valeur monétaire, mais
une valeur
sentimentale
bien sûr.
À la médaille olympique.
Okay.
Alors, c'est ça l'objectif, et puis il faut continuer à travailler fort et continuer à investir et faire et conscientiser et éduquer. Les gens sur ce que c'est les sports paralympiques.
Mais d'ailleurs, c'est la mission que vous vous êtes un petit peu donnée maintenant, Benoît, là, non?
Absolument.
En dehors de la piscine, là.
C'est un peu un rôle ou une mission ou notre cheval de bataille de continuer à faire grandir. Et aussi, c'est drôle parce qu'on doit aller à la base. Hein. C'est,
oui.
Il y a environ 10 % de la population canadienne qui vivent avec une forme d'handicap. Alors, ça, on parle de 3,5 millions de Canadiens ou à peu près 800 000 Québécois.
Merci de le rappeler, Benoît.
Sur 800 000 Québécois qui vivent avec une forme d'handicap, seulement 3 % pratiquent une activité sportive sur une base régulière. Alors ça, pour moi, là, ça me rend triste.
Mais finalement, c'est le même pourcentage que pour les gens qui ne sont atteints d'aucune forme de handicap. Il y a finalement, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit énorme.
On est beaucoup
plus bas.
Oui, absolument, parce que c'est une question de manque de confiance, manque d'accessibilité. Mm-hmm. Quelqu'un qui est en fauteuil, mobilité réduite, n'aura pas nécessairement l'opportunité de s'épanouir dans une salle d'entraînement traditionnelle comme on les connaît. Mm-hmm. Alors, par manque d'accès, il va rester à la maison, il ne pourra pas grandir et évoluer et s'épanouir par le sport et par le jeu. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on doit prendre en considération parce que les gens qui vivent dans la différence vivent dans leur quotidien des défis supplémentaires. Alors, de leur offrir une accessibilité et de s'épanouir par l'activité physique et les saines habitudes de vie est une priorité pour nous.
Benoît Huot, lorsque je vous vois nager, lorsque j'ai encore cette image de vous à la ligne d'arrivée, vous retournant, mettre le coude sur les câbles, merci, et puis célébrer cette médaille de bronze, bon, premièrement, mais lorsque je vous entends également parler du milieu paralympique, du sport et de tout ce qu'il faut encore faire, je comprends tout à fait que vous soyez fait membre de l'Ordre du Canada prochainement. C'était vraiment la moindre des choses.
Oui, c'est vraiment à apprécier. Effectivement, c'est difficile à mettre en mots,
oui.
Mais c'est beaucoup d'émotions.
J'imagine.
C'est aussi humilité. Hein.
Oui. C'est bien vous, ça.
Oui, mais c'est...
Parler d'abord d'humilité.
C'est très symbolique, hein,
oui.
C'est le genre de médaille qu'on s'y attend pas.
Mm-hmm.
Et ce qui me rend... c'est drôle parce que je disais à ma conjointe quand on a eu la nouvelle, je suis tellement content de pouvoir recevoir cet hommage, ce prix, si c'en est un, à l'âge de 32 ans, parce que j'espère et j'aurai la chance de pouvoir porter les insignes fièrement pour plusieurs années.
Oui.
Ça, c'est drôle, hein, mais c'est symbolique, hein, mais c'est... ça me fait chaud au cœur et puis on va célébrer à l'investiture qui va avoir lieu en février et puis ça me fait chaud au cœur et ça me motive. Je pense que c'est le mot. Ça me motive à poursuivre cette mission et de continuer à aider la prochaine génération de personnes qui vivent dans la différence et j'espère avoir l'opportunité et une position après la carrière sportive pour me permettre de continuer dans ces eaux-là.
Bravo Benoît, on a besoin de vous et vous savez que les portes de Canalem vous sont grandes ouvertes.
Hein? Vous êtes bien gentil. Alors, c'est gentil de m'avoir invité.
De rien.
On va se retrouver dans les prochains mois.
D'accord. Alors,
bonne année.
Oui, à vous aussi. Au revoir Benoît.
Merci.
Au revoir. Il y a des gens qui ne l'ont pas facile et je sais que vous êtes très, très nombreux à nous écouter et à en savoir quelque chose. Eh bien, écoutez l'histoire de cette jeune femme. Logement abordable, une famille durement éprouvée critique la lenteur du processus au Newbie. La famille d'une femme qui est restée coincée dans un logement au sous-sol durant un incendie critique la lenteur du processus pour l'obtention d'un logement abordable et sécuritaire au Nouveau-Brunswick. Kimberly Melançon repose à l'hôpital depuis une semaine, couverte de brûlures. Un feu a éclaté lundi dernier dans la maison de la rue Church où elle habitait. Elle est restée prisonnière des flammes dans son logement situé au sous-sol. Étant atteinte de sclérose en plaques, elle a de la difficulté à se déplacer. Elle n'a pas pu gravir les marches de l'escalier. Je suis restée dans la maison 5 minutes avant que les pompiers arrivent. Je me suis protégée avec les bras en attendant, affirme Mme Melançon. Kimberly et son conjoint sont inscrits depuis 3 ans sur une liste du gouvernement pour avoir accès à un logement abordable au rez-de-chaussée, plus sécuritaire. Je suis désolée de ne pas pouvoir sortir et gagner de l'argent. C'est dur de vivre avec 900 dollars par mois, ajoute Mme Melançon. Attendre 3 ans, c'est long et c'est terrible de devoir passer à travers tout ça. Ils nous ont dit que ce n'est pas une liste où ils rayent des noms. Ils y vont par priorité. Je suppose que maintenant, c'est une plus grande priorité de dire Jessica Melançon, la sœur de Kimberly. Depuis l'incendie, l'organisme Big Hearts Small City aide le couple à chercher un logement situé au rez-de-chaussée. Ils ont trouvé pour elle un logement sécuritaire, rue Robinson, et nous avons appris qu'elle aura peut-être un logement abordable, autrement dit subventionné, dans le même immeuble, explique sa sœur. Fredericton et Ottawa ont annoncé en 2014 un investissement conjoint de 78 millions de dollars sur 5 ans pour aider les familles qui cherchent un logement à prix abordable. Le plus récent rapport annuel de ce programme souligne que 1598 logements abordables destinés aux personnes seules, aux familles, aux aînés à faible revenu et aux personnes handicapées ont été construits ou réparés en 2015-2016. C'était d'après le reportage d'Anne-Marie Provost. Si je vous dis des livres pleins les oreilles, vous connaissez, bien sûr, mais oui, l'émission qui est consacrée aux livres audio adaptés et que j'anime pour vous tous les jeudis à midi. Eh bien, hier, je recevais Marc Cassivi. Au sujet de quoi? Le franglais. Êtes-vous pour ou contre? Et je reçois, vous le savez maintenant, on s'est déjà salué un petit peu plus tôt, Marc Cassivi, ça va bien?
Très bien.
Vous aviez lu ce livre de M. Sansal?
Non, je ne l'avais pas lu. J'ai lu Soumission de Houellebecq, oui, mais oui. Sansal, je voulais le lire, je ne l'ai pas lu encore.
Alors moi, j'ai lu, je me suis délectée de cet essai que vous avez publié, il y a déjà un an maintenant, hein,
oui.
si je ne m'abuse, et qui s'appelle Mauvaise langue. Bon, et c'est certain que, en tant que Française d'origine, vivant ici depuis 30 ans, aussi, j'avais très, très hâte de voir ce que vous y écriviez, quoique j'avais déjà lu quelques-unes de vos chroniques sur le sujet dans la presse, donc je savais déjà à peu près
où je logeais.
C'est ça, où vous vous logiez, comme vous dites. Je voudrais commencer, si vous me le permettez, par la première citation du livre, qui est de M. Dubellay, qui dit « Ce n'est point chose vicieuse, mais grandement louable, emprunter d'une langue étrangère les sentences et les mots » et les approprier à la sienne. On est en 1549. Hein? Alors, pourquoi est-ce que finalement on le reprocherait au peuple québécois et même aux Français?
Oui, oui.
Qu'en pensez-vous?
Oui, par crainte peut-être. Moi, je parle
ça.
Notamment du rapport à l'anglais,
qui est un rapport
difficile, qui est chargé de toutes sortes de choses, notamment de ce statut minoritaire, évidemment, de francophone au Québec. Et souvent, c'est drôle parce que les Français, on va reprocher au Québec, aux Français, d'utiliser des mots anglais. Mais c'est justement que les Français, je pense, n'ont pas cette espèce de complexe vis-à-vis de la langue anglaise. Ils vont emprunter aussi de l'italien. Ils vont emprunter des mots allemands. Ils vont emprunter
des
à gauche
arabes,
et à droite et arabes.
Mots, oui.
Exactement.
Oui.
Et intégrer ça dans la langue. Nous, on a cette espèce de rapport, à mon avis, malsain avec l'anglais. Et j'avais envie d'écrire là-dessus.
Et c'est ce que vous avez très, très bien fait. Je vous cite, hein, bien sûr. Pour vous, une langue n'est pas une prison. Le franglais est pour vous un signe distinctif. Et vous dites que c'est le franglais aussi un état de fait bien plus qu'un signe distinctif.
Oui, oui. Hein? En fait, oui. Puis le franglais, c'est un peu...
Bien plus qu'un état d'esprit.
Oui, c'est plus qu'un état d'esprit. Dans ma famille, notamment, parce que j'ai grandi, c'est un parcours biographique aussi.
C'est
un essai qui se voulait sans prétention. Je savais qu'il allait faire réagir. Il a beaucoup fait réagir, d'ailleurs, depuis un an. Mais c'est aussi le parcours biographique d'un petit gars né en Gaspésie, à Gaspé, qui a grandi dans l'ouest de l'île de Montréal, où les gens parlent beaucoup anglais. Et donc, ce franglais est devenu la langue un peu de la fratrie. C'était une façon, mon frère jumeau, j'ai un frère et une sœur qui sont jumeaux aussi, donc deux couples de jumeaux. C'était notre langue à nous, notre façon de dialoguer sans trop que nos parents comprennent. Et donc, on était entre l'anglais et le français, des mots inventés. Puis c'est devenu un peu notre langue, notre espèce de seconde nature. On se parle encore comme ça. Quand on se retrouve, on s'est retrouvés dans le temps des fêtes et on parle encore de cette manière-là. Et puis, j'en suis pas particulièrement fier, mais ça m'habite, ça fait partie de moi.
Et vous nous prouvez, si tant est qu'il faille le prouver, que c'est pas parce que vous vous exprimez en franglais à un moment donné avec votre fratrie que vous ne possédez plus la langue française.
Non, c'est ça.
Ni par l'oral, ni par l'écrit.
Non, et je pense qu'il faut arrêter aussi de voir l'anglais comme cette espèce de langue du conquérant qui va annihiler le français. Ouais. Je pense qu'il faut aussi se défaire de certains complexes par rapport à notre langue. Sans dire qu'il faut qu'on embrasse le franglais, ce que je veux dire, c'est si on est dans une position où on considère que le français est protégé, notamment par la Charte de la langue française, évidemment, il faut rester vigilant, mais je pense qu'on est à une époque, en tout cas, de la croissance du Québec et de son évolution historique, où on peut aussi se défaire de certains complexes.
D'ailleurs, vous dites en page 35, hein, je vous cite, « Les francophones doivent comprendre que ce n'est pas en niant, ça c'est quelque chose que vous aviez écrit dans une chronique qui s'intitulait « Je suis l'anglais du corridor ».
Oui, j'avais 17 ans, j'étais au cégep. C'est et ça. Et je me rendais compte en la relisant, malgré toutes ces maladresses, que sur le fond, j'étais resté, disons, cohérent avec ma pensée d'adolescent.
Alors, donc, vous disiez, en tant qu'adolescent, les francophones doivent comprendre que ce n'est pas en niant ou en rejetant l'existence du fait anglais dans la société québécoise qu'ils deviendront plus québécois. 25 ans plus tard, j'en suis encore convaincu.
Oui.
À l'époque, je ne parlais pas du franglais. On ne parlait jamais de franglais entre nous. On le parlait.
Oui, c'est ça.
Tout.
Oui, c'est ça. Hein? Exactement.
Alors que maintenant, on le nomme. On le parle, on le nomme. Oui. Christian Rioux, c'est pas un ami à vous. Du tout, non, pas vrai. Écoutez, je me permets de le nommer parce que vous le nommez d'ailleurs
ça.
À plusieurs reprises.
Oui, c'est un peu l'impulsion en
fait. C'est ça.
C'est la bougie d'allumage de ce livre. J'avais écrit une chronique pour répondre à Christian Rioux, qui est donc correspondant du Devoir à Paris, on partage pas trop une vision commune, beaucoup plus à droite que moi, et notamment sur la langue, et qui jetait, je trouve, sur le Québec un regard avec une certaine distance, une certaine condescendance, un peu comme si le Québec qu'il avait quitté avait pas évolué, puis qu'on était condamné à disparaître dans cette mer anglophone. Et donc, j'avais écrit une chronique et une éditrice m'a dit, pourquoi t'en ferais pas un livre à partir de cette chronique?
C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Puis là, vous avez cherché l'angle et un jour, l'angle vous est apparu. C'est effectivement votre vie, finalement.
Oui, c'est ça. Je me suis dit, je suis pas linguiste, je suis pas sociologue. Est-ce que j'ai vraiment, je disais à cette éditrice, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter? Je suis pas convaincu. Puis je me suis dit, le parcours biographique, au moins, ce sera incarné. Je vais parler au jeu et puis je vais raconter mon histoire. Je pense qu'il peut y avoir certains échos.
Et vous faites partie de ces gens qui pensent même, qui vont jusqu'à dire qu'apprendre une autre langue comme la langue anglaise, ça ne peut que faire du bien aux Français, finalement.
Oui, c'est une richesse. Et d'ailleurs, il y a des études sur la linguistique qui démontrent que plus on assimile de langues et mieux on finit par maîtriser la nôtre.
Et exactement.
Puis, je pense que c'est tout à fait logique. Puis c'est une question d'ouverture, d'ouverture intellectuelle aussi à l'autre.
Et justement, parlant d'intellectuel, c'est d'après vous aussi, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, enfin du moins beaucoup, c'est aussi ce qui a permis à des gens comme Xavier Dolan de devenir tout d'un coup cette espèce de vedette internationale.
Oui.
Si c'est que partout où il va, ce gars-là, il peut s'exprimer autant en français qu'en anglais, tout en utilisant beaucoup un langage que M. Rioux ne peut pas supporter ses films. Mais quel langage qu'on parle ici?
Oui, exactement. En fait, c'est un langage qui correspond à certains personnages. C'est une langue de création. Et ce que je reprochais beaucoup à Christian Rioux, qui parlait notamment du franglais utilisé dans le rap québécois, c'est de ne pas accepter cette liberté que se donnent les artistes de créer des personnages, d'avoir une langue de scène qui n'est pas nécessairement un langage châtié, qui n'est pas le français normatif ou standardisé, et qu'on acceptait cette couleur-là. Et Xavier Dolan, je trouve, est un ambassadeur de cette, de ce, québécois décomplexé qui va travailler autant en français qu'en anglais, moi je l'ai suivi en France, notamment à Cannes.
Ah oui,
c'est vraiment un phénomène. Il venait de remporter son prix pour Mommy, son prix du jury. J'ai pris la limousine avec lui jusqu'à l'endroit où avait lieu la réception avec le reste des lauréats. Et je sors, et puis je veux dire, il y a des flashs, les caméras, les paparazzi. C'est vraiment, on mesure mal ce phénomène-là au Québec, parce qu'il le petit cousin, le petit neveu Mais en France, c'est vraiment un phénomène. Et je trouve que de lui reprocher, par exemple, de monter sur scène et qu'une partie de son discours soit en anglais parce qu'il s'adresse à tout le monde, c'est un peu petit, c'est un peu provincial, et puis je regrette ça.
Absolument. Vous écrivez au sujet du multiculturalisme qu'il illustre sans doute, Marc Cassivi, l'un des plus grands malentendus entre le Québec et le reste du Canada. Pour la plupart des intellectuels du rock, écrivez-vous, le multiculturalisme symbolise l'ouverture d'esprit, la tolérance et la générosité. L'essence même de ce qu'est la canadienneté jusqu'à être obséquieux et à s'excuser d'exister comme le veut le cliché du Canada aux États-Unis. Il faut dire que après avoir grandi à Gaspé, après avoir vieilli à Westmount, après avoir vécu étudié en France, vous vivez maintenant dans le Myland, qui d'après vous est certainement le cœur multiculturel de la ville de Montréal.
Ça fait certainement partie, et c'est un des quartiers où il y a vraiment cette espèce de vivre ensemble entre notamment les communautés francophones et anglophones, où mes voisins anglophones sont très francophiles, où mes voisins francophones sont ou bien franco-ontariens ou très ouverts à la culture anglaise. Et donc, cette espèce d'idée d'un schisme entre les Français et les Anglais, moi, je le vis pas au quotidien. Donc, il y a une espèce de... Je trouve que c'est un exemple de vivre ensemble. Il faut pas non plus... C'est pas...
Non, c'est ça.
C'est pas le paradis.
Mais enfin, comme vous dites, il faudra un jour qu'on cesse de mettre tous les mots de la société québécoise sur le compte du multiculturalisme canadien.
Oui, exactement. Là. Je pense que oui.
Même
si, de manière politique, on peut dire peut-être que ce multiculturalisme tel qu'il a été imaginé peut-être par Pierre-Elliott Trudeau visait à minimiser l'influence des francophones ou du Québec ou de les fondre un peu dans une masse. Moi, je comprends cette critique-là. Après, d'embrasser différentes cultures et de s'ouvrir aux autres, il me semble que c'est une richesse.
J'ai eu honte à quelques moments. Marc Cassivi, en lisant Mauvaise langue, parce que bon, c'est sûr que vous réglez un petit peu vos comptes parfois avec les Français, et vous avez bien raison de le faire d'ailleurs, mais en tant que Française, forcément, il y a des fois où je me suis sentie un petit peu mal, même si évidemment je me considère pas faire partie de cette gang-là, mais j'ai par exemple toujours honte, moi personnellement, lorsque je suis en France avec des Québécois et que j'entends tous les Français dire qu'est-ce qu'il dit, alors que c'est parfaitement clair. En lisant votre livre, bon, vous rappelez cet épisode tellement nul de l'autre imbécile à la télévision, Ardisson, qui avait vraiment agressé, du moins par la parole, Nelly Arcan, qui était complètement... Bon. Il y a aussi ce moment où vous racontez le repas entre Français, avec des Français
c'était l'université,
ou le Québec.
Ça m'avait marqué,
Et pire encore... Lorsque vous dites, et ça c'est vrai, je l'ai vérifié il y a encore peut-être 2 ou 3 ans, que la littérature québécoise n'est tellement pas dans les librairies françaises.
Non. J'ai interviewé récemment Stéphane Rousseau, qui a cette carrière aussi en France, et qui me disait, on nous dit souvent, il est charmant votre accent, mais on ne veut pas vraiment l'entendre. Il dit, j'étais sur le tournage d'Astérix, il faisait un petit rôle dans Astérix, et il dit, pendant 72 jours de tournage, il y avait un acteur que je nommerai pas, qui tous les jours se moquait de mon accent
en limitant
très mal. Il dit, mais...
Je comprends pas. Mais vous savez, en même temps, regardez, ça fait 30 ans que je suis là, puis on continue de me le faire aussi assez régulièrement.
Exactement. Oui, il y a la contrepartie aussi, hein, de toute façon.
Je pense aussi que ça dépend, que c'est aussi un problème individuel. C'est un problème d'individu à ce moment-là.
Et j'en parle dans le livre, des complexes québécois. Vis-à-vis de la France.
Absolument.
Et puis je pense qu'il faut aussi s'en défaire d'une certaine manière.
Oui.
Il faut cesser de toujours voir la France comme la métropole culturelle inaccessible. Puis si on y réussit, enfin, on est quelqu'un. Là, il faut...
Et alors, vous parlez beaucoup aussi en France de l'importance, vous avez l'impression que les Français portent les Américains sur un piédestal, ONU. En tant que Française, je vais m'inscrire un petit peu en faux, me le permettez, parce que moi, j'ai le souvenir de mon père, qui avait donc connu la libération, comme encore beaucoup de Français qui sont en vie, même s'ils ne sont plus de la première jeunesse. Pour ces gens-là, l'Amérique, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est la libération, c'est la première fois qu'ils mangeaient du chocolat, les cigarettes américaines, la musique américaine. Et je pense que ça fait longtemps que je le dis, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en plus, toutes les invasions depuis des siècles et des siècles amènent avec elles leur vocabulaire. Comme par exemple tous les mots arabes qu'on a dans notre... en Allemagne, il y a plein de mots anglais, français. Si vous allez en Allemagne du Sud, un porte-monnaie, ça se dit « ein porte-monnaie ». C'est pour les mêmes raisons. Et là où je veux en venir, c'est que souvent, quand j'habitais encore là-bas, les Anglais nous abordaient en anglais. Pour eux, c'était comme normal, il fallait qu'on parle anglais. Et ça nous agaçait. J'ai déjà vu, moi, des Anglais qui me demandaient la route du Havre et je les ai amenés à Dieppe, quoi. Parce que, donc, ils ont pas pris le bon bateau. Et je me demande, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'à Paris, beaucoup, il y a énormément d'enseignes comme à Montmartre, c'est que c'est la langue de la communication. Et c'est ce que vous dites aussi dans votre bouquin.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a un phénomène récent qui est un peu ce côté business, les Français qui veulent montrer... Je pense que ça date un peu de l'ère Sarkozy, de être donc en affaires à l'américaine et donc de montrer qu'en France, on n'est plus ce peuple qui n'a pas le sens des affaires comme les Américains. Mm-hmm. Puis des fois, ça peut devenir un peu aussi agaçant.
Marc Cassivi, le retourne. Il ne reste plus que 45 secondes. Pouvez-vous le croire? On jase. Regardez-vous, vous êtes un homme de métier, vous allez être capable. En 35 secondes, vous trouvez vraiment que dans les médias, on parle mieux maintenant que dans le temps?
Il y a des spécialistes qui ont fait le comparatif.
Mais vous?
Et qui dit, moi, je trouve que oui. Je trouve que il y a un moins grand décalage.
Presse écrite, oui, je suis d'accord.
Oui.
Audio, télévision.
De façon générale, je dirais oui.
Bon, allez, on s'en reparle à une prochaine occasion. C'était Marc Cassivi, mesdames et messieurs, qui était là pour l'émission Des livres pleins les oreilles et qui est venu nous présenter Mauvaise langue, maintenant disponible. Merci Marc Cassivi.
Merci Cathy.
Restez des nôtres, l'émission Le National se poursuit dans quelques secondes. Qui est bon pour la santé, c'est d'écouter Marianne Paquette chaque semaine dans son émission C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. Ah, au fait, là tout de suite, c'est Clotilde Seille qui vous parle. Vous écoutez Canal M et c'est l'émission Le National qui se poursuit. Alors revenons-en à Marianne Paquette et à son invité du 4 janvier dernier. Son invité étant Camille Marchand, qui est conseillère aux événements spéciaux en accessibilité universelle chez Adaptavie. Et de quoi ont-elles parlé pendant quelques minutes? Eh bien, elle nous invite surtout, elle nous invite et elle vous invite à participer au challenge hivernal qui se déroule à Québec du 22 janvier au 8 avril 2017. Et elle vous invite également à expérimenter différents sports d'hiver adaptés aux personnes handicapées de tous les âges.
On se tourne du côté de Québec. Camille Marchand est avec nous. Elle est conseillère aux événements spéciaux et en accessibilité universelle chez Adaptavie. Bonjour, Camille Marchand.
Bonjour.
Bonne année à vous.
Eh bien, merci. Bonne année aussi à vous aussi.
On vous souhaite quoi, Camille Marchand?
Ah, juste de la santé.
Ah, c'est ce que tout le monde dit. Je pense que c'est la base, en fait. Le reste suit, comme on dit. On parle avec vous, Camille, du challenge hivernal et de sports adaptés hivernaux aujourd'hui. Le challenge hivernal, ce sera la 7e édition cette année. Ça se passe du 22 janvier au 8 avril 2017. Et ce qui m'a frappée d'entrée de jeu, c'est la longue période. Pourquoi une aussi longue période en ce qui a trait au challenge hivernal?
Ben en fait, avec le challenge hivernal, on essaie vraiment là d'atteindre le plus de gens possible. Puis on se fie toujours dans le fond au calendrier d'autres événements qui existent. Puis nous, on tient à ce que ce soit toujours sur les fins de semaine. Donc, c'est pour ça, là, on étire ça sur plusieurs fins de semaine pour que... Puis d'ailleurs, il y a des athlètes aussi qui participent à plusieurs... qui font plusieurs sports. Donc, on aime ça leur permettre là, de pouvoir participer à toutes les compétitions là, qu'ils ont envie. Là. On se joint aussi à des fêtes d'hiver, de quartier. Donc, ces fêtes-là, c'est pas nous qui décidons des dates non plus. Donc, c'est pour ça là, qu'on s'étend sur une longue période.
Longue période, plus de plaisir. On pourrait résumer ça comme ça, Camille Marchand. Maintenant, il y a plusieurs objectifs derrière ce challenge hivernal, mais peut-être le premier et le plus important, c'est de faire bouger les personnes qui vivent en situation de handicap.
Oui, tout à fait. Donc, nous, là, notre principal objectif, c'est vraiment de créer un rassemblement pour les gens qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, il n'y a pas beaucoup d'événements au Québec qui sont adressés juste uniquement à ces personnes-là. Mm-hmm. Et nous, avec le challenge hivernal, ben, on permet de leur offrir une opportunité vraiment de compétition, puis aussi de leur faire découvrir des nouveaux sports d'hiver adaptés. Donc, pour qu'ils puissent rester vraiment actifs toute l'année, surtout l'hiver, là, on en entend moins parler des sports d'hiver. Donc, nous, ça, c'est un de nos principaux objectifs. Puis aussi, c'est vraiment de sensibiliser la population aux sports adaptés, là, de les faire voir, de les faire connaître, de les faire essayer les sports adaptés pour vraiment voir que ces gens-là, ce sont des athlètes, des véritables athlètes.
Oui. Si je comprends bien, Camille, il y a une partie de compétition, mais il y a aussi l'expérimentation, le loisir et le plaisir, là. Il y a deux grands volets au challenge hivernal.
Oui, tout à fait. Puis ce volet-là d'expérimentation est très important pour nous parce que c'est ce qui fait amener d'autres gens justement à venir par la suite à nos compétitions, s'ils ont eu la piqûre, à vraiment devenir des élites dans ce domaine-là. Là.
Oui. Il y a combien de disciplines cette année, Camille?
Cette année, on est à 12 disciplines. Donc, 13 disciplines. Puis, dans le fond, c'est ça, on en a une seule qui est nouvelle, qui est le hockey pour tous, là, qui est pour les gens là, qui ont un trouble envahissant du développement ou vraiment pour d'autres types de limitations connexes. Donc, on a une seule nouvelle discipline, mais c'est sûr que là, dans les dernières années, on en a développé beaucoup. Donc, à un moment donné, on ne peut pas en inventer non plus. Là.
Oui, tout à fait. Donc, 13 disciplines, dont le hockey pour tous, d'autres qui fonctionnent bien du côté du challenge hivernal, des disciplines.
Oui, bien, en fait, là, on a le hockey sur Luge, qui est une de nos grosses fins de semaine, là, qui est la dernière, en fait, là, la fin de semaine du 7 avril, qui va attirer environ 200 athlètes là, partout au Québec, en fait. Donc ça, c'est une grosse compétition que nous, on accueille. On a aussi, là, dans les dernières années, le curling pour personnes qui ont subi un traumatisme crânien en collaboration avec les associations de partout au Québec qui voient vraiment un engouement pour ce sport-là. Là. C'est vraiment deux de nos grosses compétitions là, cette année.
Donc, des gens qui vivent avec des déficiences physiques, intellectuelles, vous avez parlé de troubles du spectre de l'autisme. Il y en a pour tous. Donc, on parle bien sûr d'intégration, d'ouverture à tous. Vous attendez combien d'athlètes, Camille, cette année?
Cette année, on vise à peu près la même chose que l'année dernière, là, c'est-à-dire 850-900 athlètes. On essaie d'être quand même raisonnable dans nos chiffres puisque, comme je vous l'ai dit là, tout à l'heure, c'est sûr que dans les dernières années, on a développé beaucoup, beaucoup de nouveaux sports. Cette année, on a moins de nouveaux sports, mais on essaie justement quand même de garder là, une petite augmentation là, dans notre participation.
Oui. Qui peut s'inscrire? On a pu le voir un peu. Est-ce que c'est encore le temps de le faire?
Oui, en fait, les inscriptions viennent tout juste de débuter. Là. Donc, nous, en fait, on invite toutes les personnes qui sont intéressées à visiter notre site Internet là, au www.challengehivernal.org. La plupart des gens qui vont participer aux compétitions, soit récréatives ou compétitives, c'est des gens qui pratiquent déjà des sports via des clubs existants. Si jamais les gens sont intéressés, par contre, on offre plusieurs initiations, puis ils pourraient même juste venir rencontrer les gens, les responsables, les entraîneurs, pour voir si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser par la suite. Fait qu'on les invite quand même à toutes nos compétitions, là. Puis ils peuvent nous contacter s'ils veulent en savoir plus également.
Parmi les retombées positives de l'événement, Camille, j'imagine qu'il y a des gens qui, dans les années antérieures, sont venus pour expérimenter et qu'à travers les années, ont fait partie des compétitions.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une de nos grosses retombées là, du challenge. En fait, l'augmentation de la participation sportive chez ces gens-là, en fait, résulte vraiment du fait qu'on a fait des démonstrations, des initiations. Les gens ont aimé. On les a référés vers des clubs existants locaux dans leur région. Puis par la suite, ben ils en ont reparlé. Mm-hmm. Puis ils ont eu l'engouement. Puis ils viennent participer au challenge.
Oui.
Il y en a d'autres qui vivent une expérience de compétition tout à fait incroyable pour eux. Puis qui repartent dans leur région avec cette image-là positive du sport adapté. Qui en parlent. Puis là, ça fait boule de neige. Fait que les gens veulent les goûter eux autres aussi.
Oui. Mais justement, parlons-en des régions, parce que le challenge hivernal se déroule du côté de Québec, puis bon, pas simplement ou seulement la ville de Québec, mais d'autres villes avoisinantes. Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres régions? On le mentionnait tout à l'heure, Camille, lorsqu'on parle de sport adapté, déjà parfois l'offre est plus mince, mais là, sport adapté hivernaux, pour des personnes en situation de handicap, ça peut être encore plus difficile d'être actif pendant cette période-là de l'année. Comment on peut en parler davantage, mais comment aussi rendre plus accessibles ces sports adaptés hivernaux aux personnes en situation de handicap?
Oui, ben en fait, c'est sûr qu'en faisant des initiations, puis tout ça, ça permet de faire découvrir. Puis ensuite, tu sais, c'est une roue qui tourne. Si les gens sont intéressés, qui lèvent la main, qui disent « moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça », ils doivent rentrer en contact avec les associations, soit les associations régionales de loisirs pour personnes handicapées qui ont dans leur région, qui en a dans toutes les régions, en fait, ou ça peut être dans leur association spécialisée, par exemple, des associations de personnes traumatisées crâniennes, doivent lever la main et dire « moi, ça m'intéresserait un tel programme », parce qu'on part, souvent, on va partir de 4-5 personnes qui sont intéressées, on commence tranquillement, puis là, une fois que c'est l'engouement a commencé, bien là, il va y avoir des choses concrètes qui vont se créer. Là.
Oui.
Donc ça, c'est moi ce que je lancerais à tout le monde, c'est s'il y a quelque chose qui vous intéresse, parlez-en avec les associations de votre région, puis ensuite, il y a des choses qui peuvent se développer plus facilement.
Et ça peut s'organiser. Parfois, on a l'impression que la montagne est assez haute à grimper, mais c'est possible. Est-ce que Adapte ta vie peut aider les organisations ou des équipes à se construire avec un coach et toute l'organisation nécessaire?
Oui, c'est sûr que nous, on offre toujours du conseil à tout le monde qui nous le demande. C'est ce qu'on fait là avec des clubs que nous, on a accueillis chez nous. Puis c'est toujours plus facile quand il y a une organisation derrière. Comme nous, là, c'est Adapte ta vie qui est derrière le club de hockey sur luge de Québec. Donc, c'est toujours plus facile parce que quand les gens, ils ont fait le hockey sur luge, finalement, ils en font plus ou ils sont ailleurs, peu importe. Ça reste encore actif. Là, étant donné que l'organisation Adapte ta vie est en arrière pour prendre tout ça en charge.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que nous, on est là pour donner des conseils à tout le monde qui désirait là, partir là, quelque chose. Mais comme je vous dis aussi, les associations locales de loisirs personnes handicapées aussi, c'est dans leur rôle d'aider. Là.
Mm-hmm. Camille Marchand, quelle est la part réservée aux enfants, aux tout-petits, dans le cadre du challenge hivernal?
Certaines compétitions, comme encore une fois le hockey sur luge, s'adressent à des gens de 5 ans et plus. Mais il y a aussi, dans le fond, dans ce qui est des initiations, nous, on accueille des gens de tous les âges. Donc, c'est autant enfants qu'adultes qui sont invités à venir y participer. Puis, on va cette année aussi essayer de créer un engouement plus familial avec nos caravanes de sport adapté, le Adapte à vie RBC, en accueillant les familles, en invitant les familles à venir se joindre à nous.
Oui. On rappelle que les inscriptions ont débuté, challengehivernal.org. Vous ne refusez personne, Camille Marchand. Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour s'inscrire au challenge?
Oui, ben en fait, c'est sûr que dépendamment de la compétition, il y a une limitation par compétition habituellement qui est faite. C'est sûr que nous, il faut nos règlements et tout ça des compétitions sont présents. Donc c'est assez évident là, quand on va sur le site internet à qui ça s'adresse exactement les compétitions. Là. Mais c'est vraiment ouvert à tous.
Camille Marchand, conseillère aux événements spéciaux et en accessibilité universelle chez Adapte ta vie. Merci beaucoup. On vous souhaite un très, très bon challenge hivernal et j'espère justement que vous l'aurez la santé parce que près de 4 mois de challenge hivernal, ça risque d'être bien costaud.
Oui, tout à fait, mais c'est avec plaisir qu'on le fait.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous êtes intéressé et comme on vous comprend. Alors, si vous désirez plus d'informations sur ce challenge hivernal à Québec et si vous désirez surtout vous y inscrire, c'est facile. Challenge hivernal, comme ça se prononce, avec ou sans l'accent anglais, .org. retour au Par Actualité du 5 janvier, donc d'hier. Oui, je m'apprêtais à dire d'hier et tout d'un coup, j'avais le doute. Vous savez, il y a parfois des scientifiques qui se penchent sur des questions, bien sûr, existentielles et des questions importantes pour notre santé. Par exemple, peut-on vraiment faire un lien de cause à effet entre la maladie d'Alzheimer et vivre à proximité d'un axe routier? Alzheimer, les personnes vivant à proximité des grands axes routiers auraient un risque accru de développer des démences, selon une étude publiée jeudi dans The Lancet, d'après un article de Reuters. Vivre dans un environnement pollué à proximité d'un axe routier passant pourrait être un facteur augmentant le risque de maladies neurologiques, provoquant la démence, comme la maladie d'Alzheimer, indique jeudi cette étude. L'étude n'a en revanche pas réussi à établir de lien entre l'exposition au trafic routier et deux autres maladies neurologiques, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Ils ont également découvert que les deux polluants les plus impliqués dans la démence étaient le dioxyde d'azote, le NO2, et les particules fines émises par les véhicules à moteur, même si d'autres facteurs comme le bruit pourraient également jouer un rôle. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quelque 47,5 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, dont 60 à 70% de la maladie d'Alzheimer, cette maladie neurodégénérative qui conduit à une détérioration des capacités cognitives et à une perte progressive d'autonomie. Notre étude suggère que le trafic routier pourrait être une source de stress environnemental capable de favoriser l'apparition de la démence, révèle le docteur Hong, qui reconnaît que de nouvelles recherches sont indispensables pour préciser ce lien. Plusieurs experts indépendants se sont pour leur part montrés prudents, relevant que l'étude ne permettait pas de déterminer précisément le rôle joué par la pollution dans la démence. Nous ne pouvons tout simplement pas dire si c'est dû à la pollution ou à d'autres raisons, relève le professeur Tom Denning, directeur du Centre pour la vieillesse et la démence de l'Université britannique de Nottingham. C'était à l'émission du 4 janvier dernier, retour à « C'est bon pour la santé » animé, je vous le rappelle, par Marie-Anne Paquette. Elle recevait une femme formidable qui s'appelle France Cardinal Remette. Cette femme est infirmière, elle est auteure, elle est aussi enseignante et elle connaît par cœur l'importance du réseau d'aide et d'entraide pour les personnes qui sont malades. Elle connaît tellement bien cela qu'elle en a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Lorsque la vie se fragilise ». D'ailleurs, nous recevrons d'ici quelques semaines Madame Remette à l'émission « Des livres pleins les oreilles ». Mais en attendant, écoutons-la avec Marie-Anne Paquette.
Je suis en compagnie de France Cardinal Remette, infirmière, auteure, enseignante et surtout chroniqueuse pour C'est bon pour la santé. Bonjour France.
Bonjour.
Merci d'être là. Bonne année.
Bonne année.
On vous la souhaite en santé. C'est ce que je souhaite à tout le monde. De toute façon, c'est ce que tout le monde souhaite.
Ah, c'est sûr.
Parce qu'après, tout va pour le mieux lorsque la santé est là en premier lieu.
Parfait.
On parle aujourd'hui pour notre première chronique de 2017 du réseau d'aide. Et là, je veux bien mettre la table pour débuter. Le réseau d'aide, c'est autant pour la personne qui vit une maladie, un épisode de maladie, que pour son proche aidant.
Oui, parce qu'effectivement, on ne veut pas que la personne qui est proche aidante principale soit toute seule, isolée et qu'elle se brûle. Alors, écoute, avant de partir sur ce sujet-là, j'avais le goût de partager avec les auditeurs une citation qui me guide beaucoup, moi, dans ma vie. « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Alors,
on reconnaît, hein? Saint-Antoine,
oui, Antoine, de Saint-Exupéry. Oui. Alors, cette belle citation bien connue prend tout son sens quand on aborde la question de l'aide offerte à un proche. Alors, même si on pourrait croire que cela va de soi, on s'attend à ce que les enfants s'occupent de leurs parents, tout ça, il faut comprendre que c'est quand même un grand engagement, qu'il faut beaucoup d'amour et aussi beaucoup de sagesse pour équilibrer sa vie à travers tout ça.
Oui.
J'étais moi-même proche aidante, tu te rappelles?
Oui.
On m'avait déjà partagé. Et moi, c'était dernièrement ma maman, puis je l'adorais. Puis j'étais surprise quelquefois de trouver ça exigeant.
Oui, et c'est encore plus à souligner, France, parce que vous êtes infirmière de formation.
Oui.
Donc, on pourrait penser, ah, pour elle, ça va être simple, c'est sa vie, c'est son métier, elle a appris. Mais pas nécessairement non, non plus, parce non. que ça implique aussi des sentiments de l'engagement personnel.
Oui, et qu'on a tout le monde un quotidien à gérer, hein, et on a d'autres occupations, et on, des fois, on s'implique ailleurs, et tout à coup, bon, arrive un imprévu. Mais ce que je retire, moi, de mon expérience, c'est que tout l'amour que j'ai donné, il me semble que ça me revient actuellement, parce qu'elle est partie, elle n'est plus là maintenant, et ça me revient doublement. Alors, écoute, quand la personne apprend qu'elle est malade, qu'elle est atteinte d'une maladie chronique qui va se prolonger, on n'en connaît pas nécessairement l'issue, ce qui est important, c'est de bien communiquer avec son réseau.
Mm-hmm.
Alors, on dit l'ouverture, la simplicité et l'authenticité des échanges demeurent toujours les meilleurs alliés. Et si pour des motifs quelconques, les personnes décident de taire à leur entourage ce qui se passe quand ils apprennent un diagnostic, bien, il faut se rappeler qu'un jour ou l'autre, il va falloir en parler.
Bien
sûr.
Il
va falloir s'ouvrir.
Premièrement, le réseau d'aide, comment on l'identifie? On peut penser au conjoint d'entrée de jeu, mais c'est plus large que ça.
C'est plus large que ça. Moi, j'ai lu beaucoup. Hein, pour l'écriture du livre, évidemment, j'ai consulté énormément de littérature. Et c'est clair qu'il faut s'entourer. Il faut avoir un réseau, ce qu'on appelle un réseau de soutien. Et ce réseau de soutien peut jouer beaucoup de rôles. Hein? Chaque personne a ses affinités avec tel aspect du soin. Une autre, c'est davantage social, au niveau social, qu'elle est plus apte à
c'est
donner
vrai.
De l'aide. Alors, j'avais préparé, moi, dans ce livre, des questions à se poser.
Mm-hmm.
Et je peux peut-être faire juste un résumé. C'est important de valider aussi les perceptions communes. Hein. Nous, on perçoit notre maladie d'une certaine façon, mais l'autre, comment le perçoit-il? C'est important de faire le point à ce niveau-là.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui sont très anxieux, qui vont aussi être très démesurés dans leur façon de percevoir. Je le sais, je le vis, moi, avec des amis qui vivent des choses actuellement. Des fois, je me dis, eh là là, la proportion est grande. J'essaie de ramener la personne, là, un jour à la fois, là.
Oui. Et ça m'amène à dire le retour sur les connaissances, de s'assurer que le réseau sait de quoi on parle.
Aussi,
on parle d'un cancer ou d'Alzheimer. C'est quoi cette maladie-là?
Exactement.
Et qu'est-ce que ça peut impliquer?
Exactement. Alors, on peut même demander à un fils, une fille, un ami. Bon, parce que le réseau, ça peut être bien des gens, hein? Là, c'est pour qui c'est un voisin avec qui on a lié une amitié incroyable et qui va nous soutenir tout au long du processus, des fois davantage même qu'un membre de la famille.
Oui.
Mais évidemment, ça peut être le fils, la fille, un cousin, une sœur, un frère, etc. Alors, ces gens-là peuvent nous accompagner au rendez-vous puis valider l'information dont tu parlais tantôt, effectivement. Ils peuvent aussi avoir un rôle au niveau de la gestion du quotidien. L'exploration des ressources qui pourraient aider, hein, parce qu'à un moment donné, pas tout le monde a le temps de tout faire. Et il existe différents types de ressources. Et évidemment, il y a les CLSC qui connaissent les ressources communautaires, qui eux-mêmes peuvent offrir des services en complément. Alors, il faut aller explorer tout ça et souvent, on a besoin d'aide pour le faire.
Ouais.
Aussi, d'explorer avec les gens leurs propres préoccupations, hein, par rapport à ce qui survient, parce que la maladie, l'expérience de maladie implique, oui, un effet sur la santé, mais il y a aussi des retombées, hein, au niveau matériel, financier. Quelquefois, la personne travaille, doit quitter un travail. Qu'est-ce oui. que ça va impliquer?
Ça change beaucoup de paramètres
oui,
dans la vie.
Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut regarder ces aspects matériels, financiers, puis rassurer les gens ou trouver des solutions s'il y a des solutions à chercher. Et aussi, il y a des proches qui vivent à distance. Ça, c'est important de prendre contact avec eux puis de voir à quel moment on peut communiquer avec eux, comment on va le faire pour les tenir au courant de ce qui évolue là, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où on voudrait qu'ils viennent tout près s'occuper de nous, par exemple, pour donner du répit au proche aidant principal? Ça pourrait être des questions qui se posent.
Oui. Il y a quelque chose d'assez important, et vous le soulignez souvent, France Cardinal Remette, c'est l'importance que la personne qui vit l'épisode de maladie soit au cœur de cet accompagnement-là et de ses soins. Elle doit prendre part aux
tout
décisions.
À fait, tout à fait. Elle doit s'engager dans ses soins et prendre part et prendre les décisions. Elle peut être accompagnée pour prendre les décisions, mais c'est à elle que revient la décision finale.
Oui.
Entre autres, par rapport aux options de traitement, par rapport aux options de choix de ressources pour soutenir la personne, par rapport aussi à l'option des soins palliatifs, parce que ça peut arriver dans plusieurs cas où la maladie chronique évolue tellement qu'on doit s'enligner vers une demande en soins palliatifs. Mais c'est à la personne elle-même que ça revient, oui. tant qu'elle est apte à prendre ses décisions, bien entendu.
Oui, et en l'occurrence, par rapport à son réseau d'aide aussi, est-ce qu'il est possible pour une personne malade de dire « je veux que tu m'aides pour ça » ou « je préfère qu'une autre personne, même si c'est ma fille ou mon fils, ne soit pas inclus dans ce réseau d'aide? »
Oui, c'est possible, c'est sûr. Donc, si la relation n'est pas saine, si... la personne, ou si la personne n'est pas en mesure de le faire pour toutes sortes de raisons possibles, mm-hmm. bien sûr, on peut se tourner vers d'autres personnes, mm-hmm. vers d'autres options. Et aussi, très important, le proche aidant principal, à un moment donné, peut avoir besoin d'une période de répit. Bien, il existe des ressources hein, où la personne qui est atteinte peut aller en convalescence pendant une semaine ou deux semaines et revenir à la maison par la suite.
Oui, parce qu'il y a un phénomène quand même assez important auprès des proches aidants qui n'est peut-être pas encore tout à fait documenté, mais que l'on va voir surgir énormément, c'est qu'en ayant nos enfants de plus en plus tard, souvent on se retrouve avec un parent âgé et des enfants en
oui,
bas âge.
Oui, je suis contente que tu apportes ce point-là, effectivement. J'avais remarqué, là, on dit, c'est un phénomène qui émerge, qui est émergent. Là. C'est Francine Ducharme, qui est doyenne à la Faculté des sciences infirmières, qui le mentionnait. Elle dit que, étant donné que les gens ont des enfants plus tard, alors ça fait que les enfants, à un moment oui. donné, ont eux-mêmes des enfants, mais doivent s'occuper d'un parent qui est plus âgé.
Oui.
Alors, c'est ce phénomène, effectivement.
Ça amène un défi. Et il y en a plein d'autres, des défis liés à l'accompagnement d'un proche. Souvent, on parle d'épuisement. C'est le premier, là, peut-être le premier impact qui nous vient en tête, mais il y en a plein, plein d'autres que l'on pourrait nommer.
Oui, effectivement.
Comme l'isolement, par exemple, les divergences d'opinion au sein d'une même famille.
Oui, oui, il faut faire attention à ça. Puis, ah oui, ce que je voulais absolument apporter par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut aller chercher de l'aide
oui.
quand ça arrive. Quand on voit que c'est en train d'éclater, que la personne est fatiguée, qu'elle pleure souvent, n'en peut plus, devient irritable, elle est agacée facilement, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut aller consulter, aller chercher de l'aide, puis évidemment du répit.
Oui.
Hein, c'est important. Puis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à ses proches, à d'autres proches ou à des amis qu'on connaît, ou s'adresser au CLSC, au gestionnaire de cas qui s'occupe de la situation, ou à l'équipe de soins à l'hôpital où la personne peut être attachée, là, pour essayer de voir quelles sont les ressources disponibles pour l'aider.
Oui. France, qu'est-ce que l'on fait, je reviens là-dessus, lorsqu'il y a divergence d'opinion, c'est-à-dire des conflits au sein du réseau d'entraide entre le fils, la fille, le conjoint, sur différentes décisions là, auprès du proche qui est malade?
Je pense que c'est important de se faire accompagner par une personne en qui on a confiance, avec qui tout va bien. Si on se sent trop affaibli ou... parce que c'est pas évident. Il y a des gens qui sont très malades, hein, qui peuvent vivre des situations de conflit. Ne pas hésiter à aller chercher quelqu'un qui peut nous supporter, puis aborder la question avec la personne le plus possible. Il faut s'ouvrir, il faut valider. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu te sens comme ça? Est-ce que c'est le fait que je sois malade qui t'inquiète, qui te rend comme ça? Il y a différentes façons. Il y a beaucoup d'écrits là, à ce niveau-là.
Oui.
Mais là encore, si c'est vraiment très, très grave, on peut aller chercher de l'aide aussi à l'extérieur chez un professionnel qui peut aider à comprendre la situation, peut nous épauler. Mais souvent, une simple communication peut ouvrir bien des portes.
Oui, et, tout à fait. Oui. Et de déléguer, d'être capable de déléguer et de se dire, bien, ça, c'est peut-être moins ma force, peut-être que je peux demander à quelqu'un d'autre pour m'aider avec la paperasse, par exemple, les documents à remplir
oui.
pour les rendez-vous. Mais ça peut être à double tranchant. Est-ce qu'il y a un risque que l'information soit dispersée et que là, on arrive à avoir un moins bon suivi? Là?
Bien, ce qu'on suggère, c'est d'avoir une personne qui coordonne tout ça pour
ah,
nous.
Oui.
Hein. Mm-hmm. Soit nous ou soit une personne là, qui a un certain leadership dans la famille, leadership informel, là, qui a toujours pris les décisions. Ça peut être l'aîné hein, dans une famille
ouais.
qui va prendre en charge d'organiser tout ça. Il y en a qui vont se faire même des tableaux. Hein, ils vont écrire, bon, telle journée, telle personne va venir faire telle chose. Les emplettes, ça va être le jeudi, telle personne va le faire. Ce sont des espèces de tableaux d'organisation parce que en plus, il y a des gens de l'extérieur hein, qui peuvent venir, une infirmière qui vient une fois par semaine. Alors, il faut que tout soit organisé pour pas que les gens arrivent tous en même temps.
Ça organisation, communication, ça reste les bases, les clés finalement
oui.
pour que ça se passe bien.
Tout
et aussi, ne pas s'épuiser.
Effectivement. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps.
Oui, pour encore une minute à peu près, oui.
Il y a encore il y a différentes ressources. Il y a Aidant en réseau qui peut offrir des informations intéressantes, mais il y a aussi le regroupement des aidants naturels du Québec, le réseau Entre aidants. Il y a l'appui pour les aînés qui est très intéressant aussi à www.lappui.org. Il y a l'association aussi des petits frères. On n'en parle pas souvent, les petits frères qui aussi vont aider des gens qui sont en soins palliatifs, qui sont isolés. Alors, on peut faire appel à eux et ils vont pouvoir offrir un certain niveau d'aide. Je n'ai pas... Ce que j'ai, c'est le www.petitfrères.asso.fr, le site web pour les rejoindre.
L'isolement, ça peut être très pesant, évidemment, créer beaucoup d'anxiété. France Cardinal Remette, merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve, nous, dans un mois.
Exactement.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, je suis très d'accord avec vous. Madame France Cardinal Remette est vraiment quelqu'un de très, très inspirant. Et bravo à Marianne Paquette de l'avoir invitée. Voilà, c'était l'émission Le National, animée pour vous par Clotilde Seille. Merci à tous mes collaborateurs. Je pense à Louise Véin, à Mathieu Tessier, ainsi qu'à Jean-Sébastien Laliberté. Bonne semaine.